Merci beaucoup, Père Antoine, pour votre accueil, ainsi qu'à la communauté des sœurs et à chacun et chacune d'entre vous, chers amis, car je crois que dans un lieu comme Notre-Dame des Victoires, chacun se sent chez soi, et du coup, je me sens accueilli par tous. Merci beaucoup. Accueilli par le Seigneur, la Vierge Marie et Thérèse, à l'école de qui nous continuons à nous mettre particulièrement pendant cette neuvaine, avec une reconnaissance très grande au pape François qui, le 15 octobre dernier, nous a offert ce texte « C'est la confiance » sur l'amour miséricordieux et la confiance à l'école de Thérèse de l'Enfant Jésus. Et au cœur de ce texte que le Saint-Père nous a offert, il y a ce qui est le trésor de l'enseignement spirituel de notre amie Thérèse, la petite voix de la confiance et de l'amour. En effet, le pape François écrit « L'une des découvertes les plus importantes de Thérèse, pour le bien de tout le peuple de Dieu, c'est sa petite voix, la voix de la confiance et de l'amour, connue aussi sous le nom de voix de l'enfance spirituelle. Tous peuvent la suivre dans tout état de vie, à chaque moment de l'existence. C'est la voix que le Père Céleste révèle aux petits. » Alors, encouragés par ces mots du Saint-Père, ce soir, avançons avec Thérèse sur ce chemin de la petite voix pour nous unir toujours plus au Seigneur. Par toute sa vie, Thérèse nous dit que le fondement de cette petite voix, ce sont les grands désirs, les désirs de la sainteté. Alors bien sûr, en entendant cela, nous pouvons nous demander « Et moi, est-ce que je désire être saint ?» Et qu'est-ce que c'est que la sainteté ?« Et moi, est-ce que je désire être saint ?» Oh, immédiatement, nous allons répondre « Oui, bien sûr !» Et c'est une bonne chose, répondons spontanément « Oui, bien sûr !» Mais posons-nous aussi la seconde question « Qu'est-ce que c'est que la sainteté ?» Eh bien, la sainteté, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ou en tout cas, ce n'est pas quelque chose de bizarre. La sainteté, ce n'est pas quelque chose qui serait réservé aux super-héros de la foi. La sainteté, c'est l'appel que Jésus adresse à chacun d'entre nous, parce que la sainteté, c'est être uni à lui. Recevoir la grâce de lui ressembler toujours davantage. Mettre notre vie toujours plus en conformité avec ce qu'il attend de nous pour que nous soyons ce que nous sommes, les enfants du Père, et que nous nous mettions toujours plus au service de nos frères et sœurs. Alors, la sainteté, c'est cela. C'est cet appel que Jésus nous lance. Mais évidemment, nous pouvons nous poser la question, est-ce que j'en suis capable? Eh bien, fondamentalement, Jésus nous a déjà tout donné pour que nous soyons saints. Il nous a déjà tout donné le jour de notre baptême. Vous savez, quand à la messe ou quand dans notre prière personnelle, nous lisons les lettres de saint Paul dans le Nouveau Testament, très souvent, saint Paul s'adresse aux chrétiens des différentes villes où il écrit, en s'adressant à eux, en les appelant « Vous les saints qui êtes à Rome, vous les saints qui êtes dans telle ville. » Autrement dit, « Vous les saints », c'est un synonyme de « Vous les chrétiens, vous les baptisés. » Ce soir, Thérèse, un peu comme saint Paul, s'adresse à « Vous les saints qui êtes à Paris, qui êtes à Notre-Dame des Victoires. » Jésus nous a tout donné par la grâce de notre baptême. La condition de possibilité de la sainteté, c'est le baptême que nous avons déjà reçu. À nous, il appartient de laisser cette grâce de notre baptême se déployer dans notre vie tout entière. C'est cela, la sainteté. Laisser la grâce de notre baptême se déployer dans toute notre vie. Et Thérèse, nous parle de ce déploiement de la grâce de notre baptême, de cette sainteté, en des mots particulièrement éloquents. Je voudrais citer un passage de l'histoire d'une âme de Thérèse. Le bon Dieu m'a fait comprendre que ma gloire à moi consisterait à devenir une grande sainte. Ce désir pourrait sembler téméraire si l'on considère combien j'étais faible et imparfaite et combien je le suis encore après 7 années passées en religion. Elle écrit ces mots en 1895 et elle est déjà carmélite depuis 7 ans. Cependant, je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte, car je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun, mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. Vous l'avez reconnu, c'est Jésus. C'est lui seul, poursuit Thérèse, qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui, et me couvrant de ses mérites infinis, me fera sainte. Que nous dit Thérèse dans ce passage très important où elle nous présente sa petite voix? C'est que, d'abord, il n'y a pas de chemin vers la sainteté sans désir. Le bon Dieu me fit comprendre que ma gloire à moi consisterait à devenir une grande sainte. Voilà mon désir. Pas de chemin vers la sainteté sans désir, autrement dit, sans engagement de notre part. Certes, au jour de notre baptême, Dieu nous a tout donné. Le baptême est comme la graine, le germe de la sainteté qui va pousser pendant notre vie tout entière. Dieu a fait tout ce qui dépendait de lui. À nous maintenant, avec sa grâce, de faire tout ce qui dépend de nous, d'avoir cette responsabilité, cette détermination, de prendre au sérieux la grâce reçue et l'appel que Jésus nous lance, nous engager sur le chemin de la sainteté, prendre au sérieux notre vie chrétienne. Sans cela, pas de chemin possible. Mais comme nous, Thérèse n'est pas naïve. Elle accueille cet appel à la sainteté avec un grand réalisme et elle ajoute « Ce désir pourrait sembler téméraire si l'on considère combien j'étais faible et imparfaite et combien je le suis encore. » Ce désir pourrait sembler téméraire si l'on considère combien j'étais faible et imparfaite, combien je le suis encore. Autrement dit, Thérèse, sans rien lâcher de son désir de la sainteté, regarde avec lucidité où elle en est arrivée. Et quel est son constat? Elle n'a pas honte de nous le partager. C'est un constat d'échec. Je suis faible et imparfaite. Je ne suis pas parvenue à la sainteté que je désire obtenir et dont je sais que Jésus lui-même veut me faire la grâce. C'est un constat d'échec. Alors, ce constat, il est important de le faire. Pourquoi? Pour ne pas être dans une illusion spirituelle. Je ne veux pas vous donner de mauvaises idées, mais vous savez, moi, parfois, il m'arrive, en regardant ma vie chrétienne, ma vie religieuse, eh bien de me dire, ben, après tout, quand même, Seigneur Jésus, j'ai quand même fait pas mal de choses pour toi. Oui, quand même, voilà... Je suis entré au couvent, je vais à la messe tous les jours, je m'efforce de me confesser régulièrement, j'essaye de ne pas trop faire peser mon mauvais caractère sur mes frères. Voilà quand même, Seigneur Jésus, j'ai fait pas mal de choses pour toi. D'accord, mais quel est le problème? Le problème, c'est que votre mémoire biblique vous fait peut-être penser à un passage de l'Évangile où il y a un personnage qui se présente devant le Seigneur un petit peu comme moi. C'est dans cette parabole où Jésus nous raconte l'histoire de 2 hommes qui sont allés au temple pour prier. Il y a un pharisien qui se présente devant le Seigneur en lui faisant la liste de toutes les bonnes actions qu'il a faites, dont il est bien fier et dont il se dit ainsi, « Seigneur Jésus, quand même, j'espère que tu as réalisé que je suis quelqu'un de bien et qu'en échange de cela, tu vas me donner la grâce de la sainteté. » Mais le Seigneur nous dit, ce personnage-là, c'est le pharisien, vous l'avez reconnu, il rentre chez lui en n'étant pas justifié, parce qu'il reçoit la gloire et la sainteté de lui-même, et ça ne marche pas. Thérèse, elle a choisi de ressembler au second personnage de la parabole que Jésus nous raconte. C'est le publicain, un homme assez décrié par ses contemporains, qui n'a pas bonne réputation, mais qui humblement n'ose même pas s'approcher du temple et en se frappant la poitrine dit à Dieu, « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. » Et nous dit Jésus, c'est celui-là qui rentra chez lui justifié. Autrement dit, c'est celui-là qui peut grandir en sainteté parce qu'il se présente humblement, pauvrement devant le Seigneur. Il ne s'appuie pas sur ses pauvres petites actions personnelles, aussi bonnes qu'elles soient, mais il attend tout de Dieu. Thérèse se présente comme le publicain de l'Évangile. Elle attend tout de Jésus, sans honte de son échec. Le publicain de la parabole ne dit pas à Dieu, « Seigneur, as-tu vu toutes mes réussites ?» Il lui dit, « Seigneur, prends pitié de moi qui échoue sur le chemin de la sainteté. » Le constat d'échec. Ce n'est évidemment pas une démission, ce constat d'échec. C'est une attitude d'humilité, présenter notre misère à Dieu pour attirer sa miséricorde. Ce n'est pas une attitude de découragement, et d'ailleurs ce n'est pas le point final de ce que Thérèse nous enseigne au sujet de sa petite voix. Elle poursuit. Je constate cet échec, cependant, je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte. L'antidote du découragement, c'est la confiance. C'est justement le titre que le Saint-Père a choisi pour nous enseigner, pour transmettre à toute l'Église la petite voix de Thérèse. L'antidote du découragement, c'est la confiance. S'appuyer sur Jésus et sur Jésus seul. Je ne compte pas sur mes mérites. Je ne crois pas que mes bonnes actions me permettent d'acheter la grâce de la sainteté. J'espère en Jésus qui est la vertu, la sainteté même. Chez Thérèse, la confiance est indissociable de l'abandon. Non pas l'abandon de la démission, j'abandonne la course à la sainteté, mais je m'abandonne à Jésus pour recevoir de lui et de lui seul la grâce de la sainteté. Mais alors peut-être, certains pourraient penser qu'il y a un danger, un risque dans la voie de Thérèse, une forme de paresse spirituelle, une manière de dire à Jésus, « Bon, je désire être saint, je n'y arrive pas moi-même, mais écoute, c'est toi-même qui va te débrouiller, et moi je vais attendre que ça se passe. » Non, Thérèse, aussi jeune qu'elle soit et aussi peu formée universitairement à la théologie qu'elle soit, à la connaissance théologique des saints, et elle a toujours une grande justesse spirituelle. Elle ne tombe pas dans ce risque de la paresse spirituelle, et elle nous l'indique en soulignant que Jésus se contentera de ses faibles efforts. Jésus seul, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui, et me couvrant de ses mérites infinis, me fera sainte. Jésus se contentera de mes faibles efforts. Qu'est-ce que c'est que mes faibles efforts? Ce n'est pas les petites choses qu'au passage je vais peut-être faire pour faire plaisir à Jésus. Non, les faibles efforts, c'est vivre à fond l'engagement de ma vie chrétienne. Où que je sois, quel que soit mon état de santé, quel que soit mon état de vie, faire tout ce qui dépend de moi. Ne pas chercher à faire l'impossible, mais faire tout ce qui dépend de moi. Dans la vie sacramentelle, dans la vie de prière personnelle, dans les efforts de charité concrets, avec nos proches, avec ceux avec qui nous vivons, aussi avec ceux que nous croisons au long de la journée, dans l'engagement sérieux, dans ma vie professionnelle, mon devoir d'État, quel que soit mon choix de vie. Pour nous autres, les sœurs et moi, d'autres personnes dans l'Assemblée peut-être, dans notre vie religieuse, dans notre vie communautaire, accomplir humblement les services, les charges, les missions qui nous sont confiées. Et ainsi pour nous tous. Les faibles efforts, c'est cela. Mais pourquoi c'est faible ? Parce que cela ne peut jamais servir de monnaie d'échange pour acheter le don de Dieu. Vous savez, en parlant de cela, je pense à un autre personnage de l'Évangile dont Jésus nous parle au chapitre 17 de l'Évangile de Saint Luc, celui qu'on appelle souvent le serviteur inutile, qui, une fois qu'il a accompli son devoir, dit à son maître « Je suis un serviteur comme un autre, je n'ai fait qu'accomplir mon devoir. Je ne peux pas me glorifier de ce que j'ai fait, mais je suis heureux et fier d'avoir fait tout ce que j'avais à faire simplement pour te faire plaisir, Seigneur, et parce que je me suis engagé vis-à-vis de toi et vis-à-vis de mes frères à le faire. » Les faibles efforts de la petite voix, c'est cela. Alors vous voyez, finalement, dans sa petite voix, Thérèse souligne des éléments très importants, les grands désirs de devenir saint et la confrontation au réel. Je suis faible et imparfait. Et par sa vie, elle nous donne des exemples très concrets de la façon dont elle-même a assumé cette petite voie, la façon dont elle-même a marché sur ce chemin. Un premier exemple qui illustre bien cela concerne la prière. Thérèse est devenue carmélite à 15 ans et l'oraison, la prière silencieuse dans le secret du cœur, est au centre de la vie du Carmel. Pourtant, l'oraison, cette prière silencieuse, a été tout au long de la vie de Thérèse une expérience très aride, très difficile. Elle y consacrait, comme toutes ses sœurs et comme tous ses frères, 2 heures par jour, mais ça n'a jamais été une expérience de prière particulièrement savoureuse pour elle. Quelques mois à peine après son entrée au Carmel, elle en parle à sa sœur Pauline, carmélite comme elle, alors qu'elle est en train de vivre sa retraite de préparation à la profession. Vous voyez, c'est une toute jeune novice qui s'apprête à vivre son engagement définitif de carmélite. Et voilà ce qu'est sa prière. Je cite Thérèse. « Jésus m'a prise par la main. Il m'a fait entrer dans un souterrain où il ne fait ni froid ni chaud, où le soleil ne luit pas, et que la pluie ni le vent ne visitent pas. Un souterrain où je ne vois rien qu'une clarté à demi voilée, la clarté que répandent autour d'eux les yeux baissés de la face de mon fiancé, la sainte face de Jésus. Mon fiancé, Jésus, ne me dit rien, et moi je ne lui dis rien non plus, sinon que je l'aime plus que moi, et je sens au fond de mon cœur que c'est vrai, car je suis plus à lui qu'à moi. » Dans la prière, Thérèse ne sent rien, rien d'extraordinaire, mais elle est simplement là, dans la foi, auprès de Jésus, et elle sait que c'est cela qui compte. Non pas les grands sentiments spirituels, mais l'engagement concret de la foi dans la persévérance de chaque jour. Elle n'a pas de grands sentiments spirituels, mais elle demeure simplement dans la présence de Jésus. Et tout au long de sa vie de carmélite, Thérèse vivra la prière dans cette relative pauvreté, dans cette relative simplicité. Un second exemple concerne les relations fraternelles. Là aussi, au Carmel, Thérèse a connu des hauts et des bas. Elle n'a pas vécu dans une communauté idéale, mais dans une communauté réelle. Comme chacun de nous, si nous vivons dans une communauté, nous vivons dans des communautés réelles, pas idéales. Comme chacun de nous, nous vivons ou avons vécu dans des familles réelles, pas dans des familles idéales. Eh bien, ce sont les membres de sa communauté réelle qu'elle a aimée. En choisissant de ne pas s'arrêter à la superficie des apparences. Pour la charité fraternelle, comme pour la prière, Thérèse a choisi de ne pas s'arrêter au niveau du ressenti extérieur. Elle est allée au fond des choses, en posant sur les autres, les membres de sa communauté, chacun de nous peut traduire dans l'état de vie qui est le nôtre, en posant sur les autres un regard de foi, en essayant de se représenter le regard que Dieu pose sur chacune de ses sœurs. Et le regard que Dieu pose sur chacune de ses sœurs, c'était forcément un regard d'amour, un regard de bienveillance. Et elle s'est efforcée de communier à ce regard d'amour et de bienveillance, quand bien même elle éprouvait de l'antipathie ou pas forcément de sympathie du point de vue extérieur pour telle ou telle personne. Elle a choisi de faire cet acte de foi. La personne que je rencontre est aimée de Dieu, alors moi aussi je dois l'aimer, moi aussi je peux l'aimer. Si Dieu aime cette personne, et nous savons qu'il aime toute personne, il m'appelle aussi à l'aimer comme il l'aime lui-même. Certes, les difficultés de notre vie, extérieures ou intérieures, nous ne pouvons jamais les nier. Il est même important de les nommer, de les présenter à Dieu. Seigneur, je te présente telle difficulté qui me fait souffrir dans ma vie intérieure, dans mes relations interpersonnelles. C'est une attitude d'humilité. C'est une façon de dire à Dieu, par mes propres forces, je n'y arrive pas, mais j'ai confiance que tu vas m'aider. Moi-même, je n'y arrive pas, mais j'ai confiance que tu vas m'aider à grandir. L'humilité, c'est cela, c'est de reconnaître que, de la même manière que nos communautés ou nos familles ou nos lieux de vie ne sont pas idéaux, nous non plus, nous ne sommes pas des personnes idéales. Alors des fois, ça nous apparaît comme une bonne nouvelle. Des fois, ça nous apparaît comme une mauvaise nouvelle. Je ne suis pas la personne idéale que je rêverais d'être. Mais j'étais pressé de le dire. En fait, c'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu, lui, n'a que faire de la personne idéale que nous rêvons d'être. La personne qu'il aime, qu'il veut faire grandir, c'est la personne réelle que nous sommes. Si Dieu avait voulu aimer en nous quelqu'un d'autre que la personne réelle que nous sommes, il aurait créé quelqu'un d'autre que nous. Il en avait la possibilité. Il a choisi de créer la personne réelle que nous sommes. Il aime la personne réelle que nous sommes. Alors présentons-lui la personne réelle que nous sommes. Cela, à certaines heures, voir la personne réelle que nous sommes, ça peut être une source de découragement pour nous. Soyons toujours bien convaincus que ce découragement-là est une terrible tentation qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint, lorsqu'il nous fait découvrir, voir la personne réelle que nous sommes, il nous donne toujours en même temps l'espérance. L'espérance que Dieu va œuvrer en nous pour nous convertir, pour nous faire grandir sur le chemin, pour nous faire grandir dans la communion avec lui. Alors, ce soir, en cette neuvaine où nous nous approchons de notre amie Thérèse, faisons nôtre ses propres mots et demandons-lui la grâce de nous prendre par la main, elle, de nous accompagner sur ce chemin de la petite voie, le chemin du désir de la sainteté, le chemin de la détermination à nous engager à avancer vers le Seigneur, le chemin de la confiance et de l'espérance en l'œuvre de Dieu en nous. Faisons nôtres les paroles de Thérèse pour terminer. Thérèse parlant « je », représentons-nous que c'est chacun de nous qui prononce ce « je ». Le bon Dieu m'a fait comprendre que ma gloire à moi consisterait à devenir une grande sainte, un grand saint. Ce désir pourrait sembler téméraire si l'on considère combien je suis faible et imparfait. Cependant, je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte, un grand saint, car je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun, mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul, Jésus, qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui et, me couvrant de ses mérites infinis, me fera sainte, me fera saint.